Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une émission composée d'un plat du jour et d'une madeleine. La madeleine, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité du monde artistique et culturel. Et c'est enregistré chaque semaine, n'est-ce pas Mathéo ? Par Mathéo Caranta. Bonjour Mathéo.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Qui vous a confié sa madeleine ?
Qui d'autre que le comédien Stéphane Varupen de la Comédie Française aujourd'hui ?
À 12h15 tout à l'heure. Quant à notre plat du jour aujourd'hui, c'est un portrait. Portrait d'une femme qui a l'art de mêler la précision des grandes tables au sens du partage. Celles et ceux qui la connaissent parlent d'elle avec les yeux qui pétillent et le sourire qui s'allume tant elle est solaire et vibrante, nous dit-on, généreuse et engagée. Oui, tout ça. Elle était il y a quelques semaines, en septembre 2021, sur la scène du festival Omnivore pour une masterclass en forme de démonstration culinaire, devant une salle de chefs et de spécialistes de gastronomie en tout genre. À côté de cet exercice, il nous semble que venir aux bonnes choses ne devrait être qu'une partie de plaisir. Et le plaisir est un mot qui lui parle. Alessandra Montagne, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Merci beaucoup d'être avec nous là.
C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
On l'entend dans votre accent. Vous êtes originaire du Brésil. Oui. Vous êtes franco-brésilienne aujourd'hui. Oui. Alors comment on dit plaisir en portugais du Brésil ?
Prazer.
Plaisir.
Plaisir.
Alors, je ne vais pas m'amuser à le dire aussi bien que vous. Je vais vous laisser l'accent qui est le vôtre. Mais comme vous aimez faire plaisir, on va lire en français, eh bien, nous avions eu envie de vous faire plaisir en retour.
Alô, Rosa Maria, agora vou lhe mostrar. Carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Alô, Rosa Maria, agora vou lhe mostrar. Carimbó com ciranda, vamos todos ciranda.
Olé, olá, vamos todos ciranda. Olé, olá, cada um com seu par.
Eu só vou dançar ciranda se você me acompanhar. Cirandeiro, tiro verso, cada um com o seu par. Noite linda, estrelada, céu azul, buquê de flor. Carimbó com ciranda, vou dançar com meu amor.
Olé, olá, vamos todos ciranda.
Alessandra Montagne. Alors vous connaissiez, au début vous nous avez dit non, je connais pas ce chanteur, compositeur qui vient du Pará, au nord du Brésil. Et puis en entendant la musique, mais bien sûr je connais.
Bien sûr que je connais. C'est très connu et c'est très ancien. Donc ça reste dans nos... dans la mémoire, comme ça, dans le collectif de tous les Brésiliens.
Est-ce que c'est n'importe quoi de dire une idée reçue complète de dire que vous pouvez cuisiner en musique, Alessandra Montagne?
Ah, je cuisine en musique. J'adore cuisiner en écoutant de la musique ou en parlant avec mes amis ou en écoutant un podcast sur la radio. Mais mêler l'art, la musique, la radio, un podcast avec la cuisine, c'est hyper intéressant. C'est tout de suite, ça met de bonne humeur et puis on met plus encore d'amour et de belles attentions dans ce qu'on fait.
Alors en juin 2021, Alessandra Montagne, vous avez ouvert votre restaurant à Paris, Nosso, qui signifie à nous, c'est le nôtre. Est-ce que ça veut dire que pour vous, attirer les clients chez Nosso, dans votre restaurant, c'est faire en sorte que les gens se sentent chez eux? C'est la notion du partage?
C'est ça. Alors, Nosso, c'est une très belle histoire qu'on a entendue quand même très longtemps parce que j'étais censée l'ouvrir en juin 2020. Et donc, avec la crise sanitaire, ça s'est fait en juin 2021. Au final, on a eu un an de retard d'ouverture. Pendant toute cette année, en fait, ce que je voulais au départ, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu une crise, il y a eu un manque, il y a eu de tristesse, des larmes, de rire. Donc j'ai passé par toutes les phases. Hein. Il faut savoir que je n'ai pas eu d'aide de l'État pendant cette année parce que c'est une création. C'était un nouveau local qui n'a jamais eu avant un restaurant dedans, ni un commerce aucun d'ailleurs.
Et vous aviez déjà fermé votre restaurant. J'avais déjà précédent fermé, le Tempero.
C'est ça. J'avais fermé Tempero. Mon dernier service chez Tempero, c'était le 14 février 2020. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec Nosso. Et je me suis dit que toute cette épreuve et tout ce que j'ai vécu de difficile pendant cette année, je voulais le transformer en beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Je voulais le partager avec tout le monde. Je voulais que ce soit quelque chose, une histoire commune avec mon équipe. Des personnes qui avant étaient mes collaborateurs, aujourd'hui sont mes collaborateurs plus parce qu'ils sont rentrés dans le capital social. C'est une histoire vraiment de partage, vraiment... personne ne travaille pour moi, il travaille avec moi. C'est totalement différent de cette notion.
Et c'est une équipe qui vous est fidèle, hein. Tout le monde a suivi.
C'est
il y a d'ailleurs aussi une dimension internationale de ce lieu. Il y a un petit peu de Brésil, un petit peu de Serbie, un petit peu de Liban,
oui,
une pincée de Costa Rica.
Une pincée comme ça de tout. Et ça fait qu'on fait une cuisine comme on aime, parce que forcément, on met de ce qu'on aide dans ce qu'on fait. Je ne peux pas faire une cuisine qui n'a pas un accent. Voilà, le Liban, il y a toujours un peu de citron quelque part. Le Costa Rica, il y a toujours un peu de piment.
Mais ce qui est important pour vous, c'est que c'est un restaurant où il fait bon aller manger, Alessandra Montagne, mais c'est aussi un restaurant où il fait bon aller travailler.
Voilà.
C'est pas pour rien que votre équipe vous a suivi, alors qu'on entend dire qu'il y a près de 200 000 personnes qui manquent aujourd'hui dans les cuisines parce qu'ils ont essayé de changer de vie.
J'ai du monde chez moi. Il n'y a pas de problème. Ma cuisine est pleine. Et l'autre jour, j'avais les larmes aux yeux un vendredi soir à 23h30. Lorsqu'une de mes apprenties me laisse en audio en me disant à quel point elle était heureuse de sa semaine et à quel point elle est heureuse de travailler avec moi. Enfin, ça fait super plaisir après des semaines. Quand même, c'est long, hein. La cuisine, c'est dur. On est debout toute la journée. On passe du froid au chaud. Enfin, c'est pas un travail facile. Et entendre ça un vendredi soir à 23h30, c'est bon. Je sais que j'ai fait la bonne chose, que j'ai fait passer une bonne semaine à mes collaborateurs. Et c'est super beau. Je suis super contente.
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une nouvelle génération qui investit la gastronomie de façon très différente, qui casse les codes de la gastronomie elle-même, qui se veut éco-responsable. Est-ce qu'on pourrait dire, Alessandra Montagne, qu'en la matière, vous êtes une pionnière?
Je ne sais pas, j'aurais pas la prétention de dire que je suis une pionnière.
Je sais, c'est moi qui le dis, c'est pas vous.
D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres chefs qui sont là depuis plusieurs années, qui font déjà un travail. Peut-être qu'on n'est pas forcément au courant, mais forcément, enfin moi j'ai pris aussi exemple sur d'autres chefs au départ, mais
lesquels?
Yannick Aleno, par exemple, qui fait aujourd'hui un pain qui est incroyable à partir de restes de pain. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui font ça. En tout cas, moi j'ai vu ça chez lui. Vous voyez, donc j'étais déjà dans ce mouvement où je ne supporte pas le gaspillage alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me prend aux tripes. En fait, n'importe quel gaspillage, que ça soit alimentaire, gaspillage de l'eau, d'électricité, la notion de gaspillage me rend malade.
Ça vous vient de votre enfance?
Ça vient de mon enfance.
Minas Gerais, au Brésil.
C'est ça. J'ai grandi dans un tout petit village où on avait tout ce qui était important. On n'avait pas de superflu parce qu'aujourd'hui, on a créé nous-mêmes des manques. Voilà, on n'a pas besoin d'un téléphone portable, on n'a pas besoin d'avoir du pain.
Je vais vous montrer parce que vous l'avez sur la table.
Si je ne l'ai plus, il faut savoir que ce n'est pas grave. On peut vivre sans ça. D'accord? J'ai plein de paires de chaussures. Voilà, je n'ai pas besoin. Mais on nous crée des manques qui n'existent pas, en fait, pour de vrai. Cette façon de gaspiller, il faut en fait que les gens se rendent compte qu'on a trop, on mange trop, tout est un trop en fait dans la société d'aujourd'hui.
Oui, mais vous avez appris ça et vous l'avez en vous, on l'entend bien, puisque ça vous vient de votre enfance, avec vos grands-parents qui vous ont appris à ne pas gaspiller.
Oui.
comment on apprend à toute une société,
ouais,
voilà, et ben, à ne pas gaspiller. C'est, concrètement, dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, alors moi, concrètement, ce
avec
que j'ai
des exemples,
fait,
par exemple. Oui, voilà.
Voilà, par exemple, là, dans la carte de la semaine, nous avons une focaccia. D'accord? Pour faire cette focaccia, j'ai besoin de jus de carotte. Donc, on commence déjà, les carottes, c'est pour faire un jus. Donc, on va appeler le fournisseur et on va lui demander des carottes qui sont déclassées, qui personne ne va acheter parce qu'elles sont un peu molles, un peu fatiguées, un peu usées. Donc, on va prendre celles-là parce qu'on l'évite déjà dès la première bout de la chaîne de la mettre à la poubelle. Donc, on achète ces carottes-là. On la passe à la centrifugeuse, on récupère un jus. Ce jus-là, je le mets à la place de l'eau pour faire ma focaccia à la carotte. Donc, il n'y a pas d'eau dedans, il y a le jus de carotte. Quand je le passe à la centrifugeuse, dans la centrifugeuse, il y a une partie de déchets qui reste. Ce déchet-là, ben, je vais faire un gâteau à la carotte où je vais servir ça en dessert ou en miniardise. Les gens sont hyper contents. C'est un dessert qui est hyper simple à faire, qui est absolument, absolument délicieux. Pour faire ce dessert, je vais mettre cette carotte râpée, mais un peu desséchée, parce que j'ai récupéré le jus. Je vais mettre un tout petit peu d'eau, un petit peu d'huile. Je vais mettre un peu de farine. Je vais prendre du pain rassis que je vais transformer en farine et que je vais rajouter. Comme ça, j'utilise 10% de la farine que je vais mettre, ça va être du pain. Et comme ça, toute la chaîne, c'est utiliser en fait le produit à 100% à chaque fois. Ça. La carotte, je l'épluche pas.
Aucune perte.
Non, aucune perte. S'il reste de la focaccia, bah, je vais la sécher. Pareil, je laisse dans un coin à côté du four, elle va être sèche. Ensuite, je la mixe, ça fait de la farine, une farine jaune. Soit je fais un crumble, je mets sur un velouté plus tard. Soit je la rajoute dans la focaccia également, en mettant un peu de farine, un peu de pain rassis, un peu de focaccia. Mais donc, il y a toujours, avant de jeter quelque chose, il faut juste se poser la question, est-ce que je peux encore l'utiliser? Qu'est-ce que je peux faire avec? Et forcément, on va trouver, en fait. On va tout simplement trouver quelque chose à faire.
Vous parlez de vos fournisseurs. Il se trouve que vous travaillez beaucoup avec des producteurs du coin. Alors, le coin, c'est l'Île-de-France, en l'occurrence.
Le coin, oui.
Hein,
en fait, il y a...
Des producteurs franciliens et des produits franciliens.
C'est ça. On a un magnifique terroir en région parisienne. Donc, moi, j'ai deux grands producteurs que j'aime. Donc, le premier, évidemment, Zone Sensible, qui est une petite ferme, la dernière ferme urbaine de Paris.
On a fait un reportage il y a quelques semaines.
Il est incroyable, donc il travaille en permaculture, donc il me livre toutes les semaines. Et j'ai un autre qui s'appelle Biovore. Et lui, en fait, il source dans toutes les petites fermes aux alentours de Paris, tout en bio, et m'apporte ça 2, 3, 4 fois par semaine. Et mes épices, bah, j'ai encore Samir qui fait des épices françaises. Des épices françaises incroyables, avec une éthique, une passion. Quand on entend Samir parler, c'est waouh. Voilà. Et puis, ils sont devenus des amis. Samir, qui était un ancien avocat, quand je devais passer sur la grande scène, justement, j'étais dans un stress
terrible. Du festival omnivore.
Du festival omnivore. Lui, il a pris sa matinée, il est venu. Alessandra, on s'assoit maintenant. Alors, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le message? Et puis, on a construit comme ça, où il m'a aidé, en fait, à mettre un mot, à mettre un ordre pour que l'impact, de ce que j'allais dire pour que les gens le reçoivent, en fait. Sans que ça soit brouillon. Donc, mes fournisseurs sont plus que juste mes fournisseurs.
Il y a aussi des fournisseurs qui viennent de plus loin, parce que vous faites une cuisine locavore.
Oui, bien sûr.
Et quand même, la cuisine est des tendances brésiliennes. Donc,
oui,
ça veut dire que vous faites venir des produits du Brésil.
J'ai Proust, moi aussi.
Bravo pour la transition.
Proust, moi aussi.
Mais juste avant, donc, vous faites venir des produits du Brésil. Vous avez aussi des fournisseurs là-bas.
Oui, j'ai 2 ou 3% de mes produits par an qui viennent
Attention
du Brésil.
À l'écologie.
Attention. Alors, Thaïs, qui est une entreprise qui a fondé il y a quelques années, qui s'appelle Do Brasil ao Mundo. Elle fait très attention au sourcing. Elle connaît chaque personne avec qui elle travaille. Elle source ça dans des petites tribus au Brésil. Une farine de tapioca qui est juste incroyable pour faire des pains du queijo, qui est ma Madeleine de Proust à moi.
Ah, vous allez trop vite.
Et voilà, je vous en parlerai plus tout à l'heure.
Bon, malgré tout, faire venir les produits du Brésil, bilan carbone, je m'adresse à quelqu'un qui est éco-responsable, hein, donc évidemment, c'est pour ça.
Alors, elle le fait venir en bateau, elle fait venir beaucoup de quantités, donc ça vient de l'Amazonie, donc ça va avec le petit bateau jusqu'à un certain port. Il y a quelqu'un qui récupère, qui met ça, elle récupère ici. Bon, j'ai pas forcément idée de comment si le bilan carbone est trop élevé. En tout cas, je sais que là derrière, il y a un vrai producteur qui reçoit le prix juste pour ce qu'il fait, qui peut faire vivre sa famille. Je sais qu'ici, il y a quelqu'un de hyper juste et d'hyper responsable qui achète ça. Enfin, voilà, c'est une chaîne aussi, hein, une chaîne de bienveillance également.
Et le juste, payer le juste prix payer vous permet en retour de proposer à vos clients une cuisine très accessible.
Voilà, très juste aussi.
Très juste. 27 euros plat dessert, 34 euros entrée plat dessert.
C'est ça.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
La voix inimitable de Jean-Pierre Marielle dans Calmos, film de Bertrand Blier de 1976. Bonjour Mathéo.
Rebonjour.
Vous n'étiez pas né en 1976.
Non, pas vraiment. Ah,
pas encore. Bon, on voyage beaucoup aujourd'hui puisqu'on va passer du Brésil à la Pologne, si
oui.
Je ne m'abuse.
Bah oui, moi j'ai rencontré, je vous le disais tout à l'heure, Stéphane Varupen dans sa loge de la Comédie Française. Et Stéphane Varupen, il est sur les grands écrans en ce moment dans le film de Guérande. Mais si je vous parle de ce film qui est un peu entre fiction et documentaire réalisé par Christophe Honoré, c'est parce qu'ils sont confrontés à l'irrésistible besoin de jouer pendant le confinement. Comme vous, vous avez préparé votre équipe et votre restaurant. Et bah, eux, ils se sont dit, mais comment on fait pour jouer quand on peut pas jouer? Et ils devaient mettre en scène du côté de Guérande.
De Guermantes,
issu de la recherche du temps perdu de Proust. Alors, ils ont décidé de quand même répéter envers et contre tout. Et c'est un peu l'occasion de voir Stéphane Varupen habillé en Marcel Proust, répéter son rôle la nuit dans les coulisses du théâtre Marigny. Alors, la Madeleine de Stéphane Varupen n'est pas celle de Marcel Proust, que nous connaissons bien, puisque c'est la Madeleine. Loin de là, lui, il nous parle de saucisse polonaise.
Ma Madeleine, c'est la charcuterie polonaise, et en particulier la saucisse des fêtes qu'on mange à Pâques, qui s'appelle la Świąteczna. C'est une saucisse aromatisé à la marjolaine. Ça me rappelle les repas de famille, et en particulier mes grands-parents polonais, que du côté de ma mère, c'est les grands-parents maternels. Et donc on avait ces traditions-là, donc à Noël, c'est les 12 plats de poisson, et à Pâques, c'est donc la charcuterie qu'on mange au petit déjeuner, avec du café, du lait, des gros cornichons, et puis ces différentes saucisses, notamment la metka, qui est une saucisse fumée que j'aime beaucoup, et la Świąteczna, qui a un goût particulier avec cette herbe, la marjolaine. C'est une saucisse qu'on mange plutôt chaude, qui est une apparence blanche dans un boyau avec elle est striée comme ça avec ces petits brins de marjolaine à l'intérieur. Et puis on la met dans l'eau bouillante et puis petit à petit elle rosit doucement. On la sort et puis on la coupe par le milieu. Il y a le petit croquant à l'intérieur du cartilage qui reste et puis ce goût moelleux, quand je croque dedans, on croque le boyau et on a tout le parfum qui arrive derrière. Et c'est vrai que ça me rappelle ces repas de fête qui duraient des heures et qui commencent dès le matin. Les discussions trop fortes dans ces réunions de famille, souvent c'était chez mes parents. Donc nous, on avait toute la préparation à faire. Ma mère qui allait à la boucherie polonaise, allait chercher toute cette charcuterie. Et puis le lendemain, le lundi de Pâques, il y a cette tradition qui s'appelle le dingus, où on s'arrose le matin. On arrive, donc ça me rappelle aussi ces grandes batailles d'eau quand on arrive chez ma tante ou... Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce goût-là, c'est la famille, c'est tous ces souvenirs-là. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec la Comédie Française, on joue souvent le dimanche de Pâques et je peux pas revenir, je pouvais revenir très rarement voir ma famille. Et l'année dernière encore, et là j'ai craqué l'année dernière, je suis allé dans une épicerie polonaise pour m'acheter ces saucisses et je me suis goinfré, j'ai fait un bond en arrière, ça m'a rappelé tout ça. Mes grands-parents qui sont partis beaucoup trop tôt et voilà, à chaque fois ça me fait cet effet-là.
Vous étiez, Alessandra Montagne, en écoutant cette Madeleine de Stéphane Varupen, assez surprise quand il a parlé de la saucisse aromatisée à la marjolaine. Vous avez même eu envie de le noter, donc
oui.
Ça vous inspire?
Ça m'inspire, j'ai noté pour faire une recherche, parce que là en ce moment, justement, j'ai très envie de faire des saucisses chez Nosso, parce que c'est réconfortant de manger des saucisses en hiver.
Bon.
Et il a parlé d'une façon qui est tellement tellement bien expliquée que j'avais presque envie de ressentir le goût de la saucisse, en fait. Donc ça donne forcément envie d'aller voir ce que c'est cette saucisse à la marjolaine.
Il a parlé du goût de la famille. Aujourd'hui, c'est la fin de la semaine du goût. Alors parlons un peu de goût, le goût de la famille, le goût de l'enfance, l'odeur de l'enfance. Pour vous, ce serait quoi? Le pao de queijo alors?
Alors l'odeur, c'est le manioc. Est-ce que vous avez déjà senti l'odeur du manioc frais dans l'eau quand ça cuit?
Ah non, frais dans l'eau.
Voilà, dans l'eau, on coupe le manioc, on met un peu de l'eau salée, on met dedans et on mangeait ça souvent au petit déjeuner à la maison. Alors, je sais pas partout au Brésil, mais moi, on buvait du café très tôt. À 7 ans, à 6 ans, je buvais du café le matin. Évidemment, c'est le café qui est fait d'une façon traditionnelle avec un filtre en tissu. Donc, le café, on le cultivait nous-mêmes, bien sûr, on le torréfiait nous-mêmes, on le pilait nous-mêmes avec un pilon parce qu'on n'avait pas la machine. Et donc, cette odeur du café avec l'odeur de manioc, rien que de penser, ça me fait des frissons. C'est un truc tellement dingue, c'est tellement bon, quoi. Et je ne trouve pas le même odeur de manioc en France. C'est pas le même, avec le même goût du café. C'est pas pareil. Parce que c'était fait dans un foyer en bois. Et puis, il y a aussi l'odeur, du bois, de la fumée. Et puis, l'odeur de l'endroit avec le bruit des poules, des coques. C'est vraiment un souvenir d'enfance dès le matin, vous savez, comme ça. Waouh!
Donc, ça, c'était pour l'odeur. C'est et le goût?
Alors, le goût, c'est le pão de queijo. Ce goût, il est inimitable. Le goût du pão de queijo. On peut pas avoir une autre chose avec ce même goût, c'est pas possible. Donc, le goût de la farine de tapioca, qui a aussi du manioc, avec un peu de fromage, fait d'une certaine façon, cuit soit à l'huile, soit au four. Moi, en France, je le cuis au four. Et quand on mange, il faut manger chaud, donc on se brûle un tout petit peu en mangeant comme ça. Ah, c'est super bon, ça tire un peu comme ça, c'est un peu élastique parce qu'il y a du fromage. C'est incroyable. C'est super, super, super bon.
Vous le faites à Nosso?
J'ai fait chez Nosso, ouais. Le pain du queijo. Je fais presque tous les jours, mais je fais en petite quantité.
Et ça n'est pas une cuisine brésilienne que vous faites, puisque vous avez quand même été formée en France, à la cuisine française. C'était peut-être exotique quand vous êtes arrivée, assez jeune, je crois, en France, Alessandra Montagne, mais vous avez été formée d'ailleurs chez des grands chefs, William Ledeuil, Benoît Castel, Adeline Grattard, vous ont donné les clés de la cuisine française. Bien sûr. Aujourd'hui, vous diriez que vous faites votre cuisine à vous qui est, issu de cet apprentissage-là, de la cuisine de vos grands-parents au Brésil et de ce que vous avez appris en France.
C'est ça. En fait, je suis arrivée en France, j'ai cuisiné déjà, je savais déjà cuisiner, mais la cuisine familiale de la maison. Et en ayant cet apprentissage, j'ai fait une école de cuisine, ensuite une école de pâtisserie. Et suite à ces écoles, au même temps, j'ai rencontré tous ces chefs qui m'ont en fait formée à vraiment comment ça marche dans un restaurant, comment on fait à manger, comment on fait de la cuisine française. Après, Adeline et William, c'est des chefs qui travaillent quand même avec des gens de certaine influence. Mais on fait une cuisine quand même traditionnelle. Ça part toujours de la base classique. Ensuite, une fois qu'on apprend le classique, on peut s'amuser. D'abord, il faut bien savoir faire le classique. Et c'est comme ça que j'ai vécu la chose. Donc, quand j'ai décidé de faire mon propre restaurant, je connaissais mes classiques. Mais il fallait que j'écrive ma cuisine. Et ma cuisine, c'est quoi? C'est ma cuisine de cœur, c'est ce que j'aime manger. D'ailleurs, je suis incapable de cuisiner quelque chose que je n'aime pas. Je ne peux pas. Je vais pas faire une viande, je sais pas, la tête de veau. J'aime pas la tête de veau. Je n'aime pas les escargots. Je suis désolée pour tout ce qui m'entendait. Je n'aime pas les escargots. Du coup, je cuisine pas d'escargots.
En revanche, vous aimez beaucoup la poitrine de cochon confit.
Ah oui, là,
c'est un de vos plats signatures.
C'est ça. Alors, justement, ce porc confit, c'est ce que
il est à la carte.
C'est à la carte
de la semaine, en tout cas.
Oui. Quand j'étais petite, donc on élevait nous-mêmes nos poules, nos cochons, etc. On n'avait pas de courant quand j'étais petite chez mes grands-parents. Et pour conserver la viande, c'était du coup dans le sandou. Et on peut conserver des mois la viande comme ça dans le sandou. Une fois qu'elle est cuite, on la cuit, on la met dans le sandou. Et ma grand-mère, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle enlevait la peau de la poitrine, elle les laissait sécher sur le foyer en bois, et ensuite on coupait des morceaux et on faisait croustiller ce morceau de poitrine, cette peau de poitrine, on mangeait comme un pop-corn. Et la viande, donc elle faisait cuire pendant très longtemps et elle la laissait dans le gras. Et quand la viande était dans le gras, je pense qu'elle prenait le goût et puis une certaine maturation. Et de temps en temps, quand on coupait un morceau, qu'on faisait réchauffer et qu'on mangeait les deux ensemble, c'est dans confit que ça fond dans la bouche. C'est hyper, hyper bon. Et avec à côté cette peau qui croustille. Alors, il fallait trouver un moyen de pouvoir rendre ça accessible en France avec un cochon élevé et abattu en France. Comment faire pour avoir ça? Bon, on a du courant, donc on va pas faire la viande dans le sandou. Bon, on a trouvé une technique après plein d'années et de temps d'essais. Aujourd'hui, c'est abouti, c'est délicieux. Évidemment, ça pourra jamais être comme là-bas parce que j'ai pas le fouiller en bois pour sécher la peau du porc, comme ça, pondu. Mais c'est très, très bon aussi. Et ça, j'adore.
Et il y a aussi l'épaule d'agneau confite. Vous aimez bien le confit, hein?
J'aime bien.
Oignon brûlé, crème de maïs.
Alors, j'ai noté crème de maïs, mais en fait, pour de vrai. Ça s'appelle kanjiking. C'est un petit plat de Minas Gerais, de là où j'ai grandi. En fait, je suis une dingue de maïs aussi. J'adore le maïs.
Ah, pour rien que je cite celui-là.
Oui, j'adore le maïs. Et là, en fait, c'est comme une sorte de polenta un petit peu plus épaisse. En fait, elle est le cassage du polenta qui est assez fin. Là, c'est un peu plus épais, quand même. Un peu plus épais. Donc, du coup, au niveau du goût, au niveau des textures à la bouche, c'est pas du tout pareil qu'une polenta ni qu'une crème de maïs. C'est juste les Brésiliens qui mangent, ils disent, mais c'est dingue, tu fais la kanjiking. J'ai dit, oui, on a du maïs en France, donc pourquoi on peut pas avoir la kanjiking en France?
Alors, le maïs, c'est le produit que vous aimez particulièrement travailler?
J'adore travailler le maïs parce que ça pousse en France. Donc, c'est facile à faire, c'est facile à trouver. D'ailleurs, le maïs qui vient de zone sensible, Franck, en ce moment, il plante du maïs pour moi, donc c'est top. Oui, j'adore travailler le maïs, j'adore.
Si vous deviez, Alessandra Montagne, réfléchir au geste, plus qu'à l'ingrédient hein, qui est fétiche pour vous, le geste que vous aimez particulièrement faire, ce serait quoi?
Un geste...
En cuisine, bien sûr. Hein.
En cuisine, il y a tellement... Enfin, c'est des gestes avec les mains. Alors, il y en a trop parce que... C'est-à-dire que du moment où on arrive jusqu'à ce qu'on finit de faire un repas, il y a des gestes. Il y a certains gestes qu'on doit les répéter des centaines de fois avant d'avoir le bon geste. À chaque fois, pour faire un dressage, il faut refaire pour avoir le geste parfait. Après, il y a des gestes qui doivent être hyper précis pour couper un poisson, pour tailler une viande. Ça doit être précis, sinon, il faut tenir le manche du couteau presque comme s'il faisait partie de ta main, en fait, avec une force, une précision. Donc, des gestes, il y en a tellement, il y en a tellement, je ne peux pas te parler de un.
Okay. Bon, merci beaucoup en tout cas pour la recette aussi que vous nous avez offerte, que Roxane Poulain a mise sur notre site internet, la fameuse focaccia à la carotte. Et un grand merci d'être venu.
Merci beaucoup, merci à vous.
Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, June Lopère et notre technicien du jour Anthony Thomasson avec Florent Bujon. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weissmann.